Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On est dans l'épisode 163, en plein dans l'épisode 163. On est en décembre 2020, on nage dans les nouveaux jeux et aujourd'hui on en a quelques-uns dont on va vous parler. En plus de retours et d'avis d'autres joueurs sur les jeux les plus récents, c'est vrai que cet automne c'est comme toujours too many games, comme on dit dans les bons podcasts. Avant de se lancer, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux. Et aujourd'hui, je remercie deux Cléments. Il y a Clément et Clément Barras. Il y a également un troisième Clément, Clément Blin. Il y a aussi Jérémy Bertrand, Marolani, Romain Gaillard, Yann Berger, Gouédouille, Greg Buch, Jen Noodle et les producteurs de l'émission qu'on remercie chaque semaine, Bazou42, Lancelot Davizard et Chulrac. Merci à vous tous. Si ça vous intéresse de soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Je vous en redirai un petit mot dans un petit moment. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le fascinant Jika Loret. Comment ça va, Jika? Est-ce que tu es en forme?
Ça va, ça va. Je pense qu'il faut que tu trouves un adjectif à chaque émission, un nouvel objectif.
Un adjectif différent.
Fascinant. La semaine dernière, le mois dernier, je ne sais plus ce que c'était. Mais je suis content d'être là.
Tu es content? Oh, bah écoute, c'est sobre, mais c'est bien, voilà. C'est honnête au moins.
Voilà, je pars en toute sincérité. Je suis content d'être là.
Ah, écoute, quand c'est dit comme ça, tu vois.
T'as vu?
Ouais, non, mais quand c'est dit juste, oh, je suis content d'être là, c'est un peu, oh, mais l'est-il vraiment? Mais quand tu dis non, c'est en toute sincérité, je suis content d'être
oui,
là.
Oui, voilà, il y a une sincérité et un aplomb, tu vois, sans en faire trop non plus. Uh-huh. Voilà, c'est ce qu'il faut, quoi.
Amener un peu de joie dans le cœur des auditeurs et des participants, c'est notre but ultime. Et le fait que tu sois content, eh bien, ça me fait hyper plaisir. Et... voilà. Pour amener encore plus de bonheur et de joie dans vos cœurs, on a le plaisir de recevoir également la formidable... Qu'est-ce que j'ai dit pour Jika? Formidable ou fantastique? Je ne sais pas si on gardait le même adjectif, mais dans tous les cas, elle
fascinant.
Est les deux. Fascinant, formidable, oh. Merveilleuse. C'est Ophiel, alias DressMeGeekly sur Twitter et sur son blog. Comment ça va, Ophiel? T'es en forme?
Oui, ça va très bien. Je suis très contente d'être là aussi. Ça me fait plaisir d'être avec vous.
Bah, je suis d'autant plus...
Même si j'ai un peu faim, j'avoue, hein, mais je suis très contente d'être là.
Ça, c'est le problème, tu vois. Maintenant que j'enregistre en live sur Twitch toutes les semaines à midi, le jeudi pour le rendez-vous jeu et le mardi pour le rendez-vous tech, il y a des gens qui participent à l'émission, mais qui le prennent sur leur temps de déjeuner. Jika, c'est bien de quoi on parle.
Ben.
Donc, il faut qu'on tienne sur l'heure parce que sinon, les gens commencent à devenir tellement affamés que ils commencent à s'énerver, tout ça. On me contredit dans l'émission, j'aime pas ça du tout. Donc il faut qu'on gère ça de manière efficace. Oui, Jika,
sinon, il y a ma technique. Non, je disais qu'il y a ma technique. Tu te fais un petit sandwich que tu manges pendant la préparation de l'émission, comme ce que j'ai fait là discrètement, tu vois. Personne là-dessus.
J'aurais dû faire.
Et tu vois, je suis calé. Très bien.
Ah là là.
Je suis calé, c'est parfait.
Je suis une noob.
Ah oui, non, mais c'est normal. Tu viens donc.
Ouais. Les vétérans peuvent donner des conseils, c'est vrai. Se faire un sandwich, avoir un petit peu d'eau à côté pour pas avoir la gorge desséchée au bout d'une heure.
C'est ça.
Je sais, pour la prochaine fois, j'aurai peut-être droit aussi à un autre adjectif. Très charmant.
Il faut qu'on les note. Il faut qu'on les note, les adjectifs, ouais. Mais comme je le disais, je suis super content que tu sois là, Ophiel, alias Stéphania, alias Ophiel. parce que tu as joué à des jeux dont je voulais parler et dont je suis assez curieux, donc on va pouvoir parler de tout ça. Il y a des news assez intéressantes au niveau des mises à jour des consoles, et on va y venir en deuxième partie d'émission, mais je me suis dit que pour une fois, on allait commencer avec les jeux, et il y a tellement de jeux dont on a déjà parlé et d'autres dont on n'a pas déjà parlé. C'est marrant parce que des auditeurs disaient à l'épisode précédent « Ah mais attends, on a déjà eu le programme de cet épisode la semaine dernière !» Et c'est vrai qu'on se remet à parler des épisodes dont on a des jeux dont on a déjà parlé, parce que ils sont sortis en masse au mois de novembre. Et bon, il y a quelques semaines avant que les nouveaux sortent, mais il y en a eu tellement que forcément, on va en reparler un petit peu de certains, le temps qu'on y joue un petit peu plus. Ceci dit, la semaine prochaine, il y a Cyberpunk qui arrive. Et je me demande si, en fait, leur décalage, c'était pas une bonne idée, parce qu'ils sortent complètement de la masse. Et au final, le monde entier n'attend que Cyberpunk, là, dans le 10 décembre. Et tous les yeux vont être rivés sur eux, alors que s'ils étaient sortis au moment de la sortie des nouvelles consoles, ça serait un petit peu éparpillé, je crois.
Même si c'est un jeu qui a suffisamment d'aura pour que, voilà... Pour que de toute façon, si, même s'il était sorti en novembre, je pense qu'on en aurait beaucoup parlé. Mais là, effectivement, c'est quasiment le à ma connaissance, c'est le dernier AAA qui sort là cette année, donc, et pas des moindres, on va dire. Donc, ouais, effectivement, voilà. Il va être un peu tout seul.
C'est ça. Et je crois que même s'il avait eu une certaine aura, enfin, s'il a de toute façon une grosse aura, je crois que là, avec les consoles next-gen, ça serait éparpillé. Là, tout le monde ne va parler que de ce jeu. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Mais en attendant, on va parler de jeux dont on n'a pas forcément parlé avant, dont un qui est sorti juste aujourd'hui. On va parler de Fuser, de Immortals Phoenix Rising, de Sakuna of Rise and Ruin, dont je suis très curieux d'entendre parler. C'est Stéphania qui y a joué. Puis on va reparler un petit peu de Assez Valhalla, de Sackboy d'ailleurs, dont on n'a pas parlé encore dans l'émission, et de d'autres trucs. Je te propose, Stéphania, qu'on commence par peut-être Fuser, parce qu'il est sorti il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça.
Oui, ça doit faire un petit mois, je pense. J'ai plus la date en tête. Et alors moi, j'y ai joué donc sur PS4.
D'accord.
Et en fait, c'était carrément un ovni pour moi, parce que en fait, il faut savoir que j'adore les jeux de musique. Et durant la période de novembre, en fait, il y avait Let's Sing, Fuser, il y a plusieurs jeux qui sont sortis musicaux, et j'étais cool, allez, encore un jeu de musique. Et je pensais que ça allait être de la chanson, mais pour chanter. J'ai juste mal lu les informations, hein, c'était ma faute. Et en fait, quand j'ai lancé le jeu, ça a été une très bonne surprise, parce que en fait, le but, c'est on a 4 platines devant nous, et on mixe des tubes divers et variés, hein, qui vont des années 70 à 2020, avec des gros tubes qu'on peut trouver, qu'on entend même à la radio. Et donc, chacune des pistes correspond, par exemple, au synthé, aux basses, au chant, etc. Et le tout, c'est de mixer les différents sons pour faire le mix le plus cool possible.
Ouais.
Et c'est vraiment ouf, en fait.
C'est-à-dire que pour faire comprendre aux gens qui écoutent sans être visuel, c'est effectivement, on a 4 platines sur lesquelles il y a des CD métaphoriques ou des disques métaphoriques, et chacun correspond à un type de son. Alors, il y a la chanson, le rythme, donc la batterie, et puis il y a aussi les claviers, les flûtes, tout ce que vous voulez, mais c'est en 4 catégories différentes. Et le logiciel, le jeu, quand vous mettez par exemple un morceau de Justin Timberlake, un morceau de Lady Gaga, enfin la voix de Justin Timberlake, le beat de 50 Cent et les claviers de Lady Gaga, et ben il va adapter le rythme et la tonalité de chacun des morceaux pour que ça forme un morceau cohérent. Et il y a tout un gameplay autour de quand on drop les CD, quand on les enlève, quand la foule demande tel ou tel type de truc, etc. Mais c'est un petit peu le jeu de Harmonix ultime. Harmonix, c'est ceux qui ont fait Rock Band et tous ces jeux-là, et Guitar Hero. C'est le jeu de Harmonix ultime, parce que c'est pas juste un instrument, on est carrément un DJ avec toutes les pistes possibles. Donc, dis-moi si j'ai bien résumé ou pas, et puis qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne
Alors, disons que plus on avance dans le jeu et plus ça devient compliqué parce qu'au début, effectivement, il suffit juste de gérer ces quatre pistes et on fait des sons plutôt sympas, mais très, très basiques. Et au fur et à mesure, en fait, ça se complexifie parce que, comme tu disais, il faut dropper les vinyles au bon moment, faire des fondus, adapter le beat, le tempo. On peut ajouter des effets. Et en fait, notre platine... au fur et à mesure, au lieu d'avoir que 4 disques, bah, on a plein de boutons en plus et ça devient un peu compliqué à gérer, mais le résultat est toujours très chouette parce qu'en plus, on peut capturer les sons qu'on est en train de faire en tout cas, on appuie, on fait un instantané en fait et on peut les réécouter plus tard, on peut même les partager sur les réseaux et non, c'est vraiment... On peut mettre ça en fond pendant quelques jours, ça te fait une petite musique d'ambiance très très sympathique et... Moi, j'ai adoré. Vraiment, c'était la grosse surprise. Et c'était du genre, je préférais jouer à ça qu'à Valhalla.
Ah oui, carrément.
C'est amusant.
C'est marrant parce que... Alors, bah oui. Moi, je l'ai pris un petit peu parce que, justement, parce que les auditeurs disaient « Ouah, tu parles que des mêmes jeux. » Enfin, c'est une ou deux personnes qui a dit « Ah, mais vous parlez que des gros jeux, machin. » Je me suis dit « Bon, bah, je vais prendre Fuser. J'en entends parler depuis un moment. J'ai envie d'y jouer. Enfin, de voir de quoi il s'agit. Mais je ne suis pas très jeux musicaux. J'en ai pas fait beaucoup. Et je t'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Peut-être par erreur, je l'ai pris sur, pas par erreur, mais peut-être que c'était une erreur de le prendre sur Switch parce qu'il est, les performances sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait espérer et on va en reparler dans un moment quand je vais parler de Immortals Phoenix Rising, de ce problème. Mais au final, je trouve que la magie de créer un nouveau morceau, j'ai pas l'impression que ça fonctionne beaucoup. Alors, j'ai seulement quelques, genre 2 heures de jeu, donc je suis vraiment au tout début. Mais moi, je me disais, ah, mais c'est, comment est-ce qu'ils vont faire pour créer un morceau sympa qui fonctionne avec des bouts, des pistes de tous les autres morceaux ? C'est compliqué. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi ce tour de magie ? En plus, ils avaient de l'entraînement parce qu'ils avaient fait un truc qui s'appelait Drop Mix, qui était un jeu physique, genre une sorte de jeu de plateau, mais avec de l'électronique, où c'était le même principe. Mais au final, je trouve que ça, de mon expérience, peut-être que c'est parce que je suis un très très mauvais DJ, je trouve que ça ne fonctionne pas. Les morceaux, ils sont Frankensteinés ensemble. Et oui, c'est le même rythme parce qu'ils changent les BPM pour que ça matche. Et oui, c'est le même, la même tonalité. Donc ça matche aussi. Mais je trouve que ça ne donne pas un résultat plaisant à écouter. Et peut-être que c'est juste parce que moi, je suis pas un bon DJ. Mais toi, tu y arrives beaucoup mieux.
Je sais pas. Alors, je n'ai pas envie de mettre ça sur tes skills. Hein. Je n'ai pas envie de m'avancer.
Vas-y, n'hésite pas. Tu peux y aller, hein, vraiment.
Non, mais parce que moi aussi, au tout début, en fait, quand on ne connaît pas encore les différents morceaux et comment ils vont s'agencer, effectivement, peut-être que ça peut paraître... pas compliqué, mais en tout cas, on a des sons pas forcément cohérents ou agréables. Mais je me suis surprise à de nombreuses reprises à danser avec ma manette en mode « Ouah, je suis en train de faire un truc de ouf
!» D'accord. Okay.
Je sais pas. Et j'ai fait écouter les sons que j'avais produits et on m'a dit « Non, c'est super sympa. Non, j'avoue, c'était cool. » Donc, je me dis, bon, quelque part, soit il y a une part de « Il faut bien mixer un moment et connaître assez les chansons pour savoir à quel moment il faut les mettre. Mais non, je sais pas. Pour moi, c'était réussi, en tout cas.
Écoute, je peux tout à fait imaginer que ça soit ma défaillance musicale qui soit en cause. Donc, je vais continuer à y jouer un petit peu et on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que le jeu, en tout cas, est très original. Et pour être honnête, dans les milieux de musicophiles, j'ai l'impression qu'il a quand même particulièrement bonne presse. Donc, j'ai quelques petits trucs à lui reprocher, notamment sur Switch, mais même en général... L'ambiance du truc, je sais pas, ça m'a un peu fait penser à Forza Horizon. C'est genre, t'arrives à un festival et t'as le promoteur du festival qui est un jeune super sympa. Genre, ah oh, mais tu vas faire un malheur comme DJ, viens sur la scène, ça va être trop cool. Ouais. Bon, c'est un peu... ok, c'est pas très grave, c'est pas très important pour le jeu. Mais au-delà de ça, sur Switch, il fonctionne. Mais je sais pas, peut-être que c'est le moment de parler...
Je suis pas sûre que tu vas adapter, oui.
C'est pas forcément adapté. Et puis, mine de rien, il y a un autre problème qui se pose et je peux en parler en évoquant Immortals Phoenix Rising parce que j'ai acheté aussi. que j'ai acheté donc il y a quelques heures maintenant. J'ai commencé à y jouer, j'avais fait la démo également. Le conundrum, le choix de l'achat sur Switch devient encore plus difficile aujourd'hui avec la nouvelle génération de consoles, parce que on sent encore plus, je crois, le gap technologique. C'est pas que il y avait pas un gap technologique avant avec les anciens jeux, mais je trouve que depuis la nouvelle génération, on a envie de profiter des beaux graphismes de notre nouvelle génération de consoles, et sur un jeu d'une part comme Fuser, mais je crois encore plus comme Immortals, même si c'est pas le jeu le plus technologiquement impressionnant qui soit, le choix de l'achat sur Switch se pose encore plus, parce que c'est pas qu'elle tient pas la route, mais la version Switch, elle est sensiblement moins belle, et puis au niveau des FPS, ça chute aussi, et je sais pas, c'est moins facile de se dire bon, je vais le prendre sur Switch, comme ça je pourrais y jouer partout. Moi, j'ai fait ce choix parce qu'il se trouve que ce week-end, je pars, j'ai deux jours de vacances avec ma femme, et je me suis dit je vais prendre ma Switch, comme ça je vais pouvoir jouer un petit peu pendant qu'on est enfermé à l'hôtel. Mais c'était quand même un choix beaucoup plus difficile que ça l'aurait été il y a deux mois, quoi. Jika, tu voulais ajouter quelque chose ?
Disons que c'est assez évident que avec l'arrivée des nouvelles consoles, ça pose question. Mais en fait, depuis le début, c'est que globalement, j'ai l'impression que la Switch, les portages 3D, les portages de jeux, on va dire 3D, hors jeu Nintendo, c'est quand même globalement un peu compliqué. C'est pour ça que la Switch, moi, en fait, maintenant, je privilégie essentiellement soit des jeux Nintendo, soit des jeux indés, soit des jeux en 2D, soit ce genre de trucs, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a eu des exemples récents de portages d'excellente qualité, alors pourtant, c'était pas gagné. Par exemple, il y a eu Ori and the Will of the Wisp qui est sorti sur Switch. Et le jeu est ultra optimisé, vraiment. Il y a Digital Foundry qui avait fait une vidéo qui expliquait comment ils avaient optimisé le jeu, alors qu'au début, c'était vraiment pas gagné. Mais c'est vrai que, par exemple, tu cites Fusion, moi, je l'ai acheté sur Switch aussi. Et alors, au-delà du fait qu'un petit écran en mode portable, c'est peut-être pas idéal pour s'immerger dans le truc et tout, c'est vrai que globalement, t'as un manque de fluidité. Alors, bon, pour un jeu musical, c'est pas si grave que ça, mais tu vois, qui est quand même un peu complexe,
faut avoir le bon rythme.
Ça aide pas du tout. Et tu vois, alors je crois que tu l'as mis dans le conducteur, mais il va y avoir Doom Eternal qui va sortir bientôt sur Switch. Je demande à voir, parce que le premier Doom, dont celui de 2016 qui était aussi sorti sur Switch, était étonnamment correct, on va dire. Mais Doom Eternal, en termes de visuel, il est quand même un bon cran au-dessus. Donc, faire rentrer un Doom Eternal sur une Switch, je me dis, putain, il va y avoir du travail quand même.
Et le truc, c'est que c'est pas nouveau. Il y a des auditeurs sans doute qui vont se dire, mais attends, c'est bon, on sait bien que sur Switch, tu l'achètes pas pour les graphismes, le jeu, tu l'achètes pour la portabilité. Et je suis complètement d'accord, c'est 100% ce que je disais il y a encore deux mois, et ça me dérangeait pas plus que ça. C'est juste que là, le deal est encore plus, pas amer, mais il fait un petit peu plus mal, parce que tu sais que tu pourrais avoir le choix, et pas juste entre PS4 et Switch, il est entre, ou Xbox One et Switch, il est entre PS5, Xbox Series X et Switch. Donc la différence est encore plus frappante. Et en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai hâte qu'il sorte une Switch Pro pour que je l'achète et que je puisse avoir. Ouais, parce que mine de rien, la Switch, elle a un Tegra dedans, et le Tegra, c'est quoi? C'est un processeur de 2014, 2015 peut-être, quelque chose comme ça.
C'est le Tegra K1, je crois, qui date de... on est en 2020, ouais, qui doit avoir 4 ans, 4 ou 5 ans, quoi.
Même plus. Je crois qu'il a plus, le Tegra K1. Oui, enfin, bon. Mais dans tous les cas, c'est
une révision, là. Ils ont sorti une révision du Tegra K1, bon, bref, qui est un poil plus... c'est plutôt au niveau de la consommation énergétique que ça.
Ce que je veux dire, c'est que la prochaine machine aura un processeur plus rapide qui pourra faire tourner peut-être en 4K en mode docké, ou d'ailleurs il y a une idée intéressante on est parti sur la Switch là, mais il y a une idée intéressante qui serait qu'ils sortent une Switch uniquement dockée qui fasse de la 4K avec plus de puissance, donc forcément quand on est sur la télé, mais que les jeux en portable restent en mode que la nouvelle Switch soit pas hybride, portable et télé. Je ne sais pas si ça va arriver.
Ah bon, mais fasse qu'une télé, tu veux dire?
Ouais, peut-être. Bon, j'y crois pas trop, mais on verra en tout cas ce que ça donne.
Bon, après, la Switch Lite, c'est pas... Oui, mais tu vois, la Switch Lite, c'est pas une console hybride, hein, tu vois. Donc,
non, c'est ça. C'est pour ça que ça
sortir une Switch Pro pour le salon, mais je sais pas, ouais.
Dans tous les cas, Immortals Fenyx Rising est sorti aujourd'hui et il a des reviews plutôt positives. Et je crois que c'est un petit peu surprenant parce que il y a une habitude des jeux Ubisoft monde ouvert et d'être un petit peu moqueur de ce genre de jeu. Et là, Immortals, on est pile de manière presque ridicule dans cette catégorie. On est vraiment dans un jeu qui adhère à la formule Ubisoft, mais à un point où ça devient... je sais pas, on a dépassé le ridicule et c'est carrément... ça devient... J'ai pas envie de dire que ça devient triste, mais c'est plus juste marrant, quoi. C'est genre, mais... Vraiment, ils font encore les tours auxquels il faut monter sur machin.
Mais bon. c'est limite parodique, t'as l'impression. Non,
voilà,
parodique.
Exactement. On dépasse le ridicule et on arrive au parodique. On a l'impression qu'ils se parodient eux-mêmes, tellement ils sont adaptés.
Après, c'est marrant ce que tu dis parce que, alors tu veux surtout y venir, mais tout le monde le compare surtout à Breath of the Wild.
Alors bien sûr.
Plus qu'à un open world Ubisoft, quoi.
Il y a énormément de comparaisons à faire avec avec Breath of the Wild, carrément. Il y a même un petit peu de comparaisons à faire avec Dark Souls, comme tous les jeux de ces cinq dernières années. Mais disons que de la même manière que les Assassin's Creed récents se sont inspirés un tout petit peu de Dark Souls, celui-là, c'est un mix entre Assassin's Creed Odyssey et Breath of the Wild. Ceci dit, beaucoup de gens disent « Ah, mais scandale, Breath of the Wild, machin. » Breath of the Wild s'est quand même beaucoup inspiré des mondes ouverts et de la formule qu'a créé, qu'a raffiné Ubisoft. Donc, c'est peut-être un petit peu de bonne guerre. Mais pour le jeu en lui-même, maintenant, après que j'ai fait toutes ces critiques, je dois avouer que sur les premières heures, j'ai dû jouer en tout avec les démos peut-être 3-4 heures, donc c'est encore un avis des impressions préliminaires. Malgré toutes ces critiques qu'on peut faire, il est vraiment sympa. Moi, je suis en train de vous parler et de faire l'émission, j'ai assez envie de retourner y jouer, surtout après avoir pas énormément accroché, avoir plus de mal à rentrer dans le combat plus lourd de Assassin's Creed Valhalla, alors que j'étais un grand fan de Assassin's Creed Odyssey, et ben là, on a la fluidité du combat d'Odyssey avec la compacité, c'est vraiment compact, et on a tout le fun du gameplay de ce jeu-là, de manière peut-être même encore plus rapide, encore plus arcade. On a un environnement... mythologie grecque qui est encore plus mythologique et un petit peu cartoon, qui fonctionne, hein. Je pense qu'on va finir par s'enlacer entre Hades, Odyssey et Phoenix Rising, ça commence à faire beaucoup, il y a même d'autres jeux peut-être dans cette catégorie, mais là ça passe encore. Et le truc, même avec le monde ouvert, eh ben, on va aller picorer nos activités à droite à gauche, c'est rapide et fun, et ça fonctionne super bien. Comme certains mondes ouverts d'Ubisoft ne le font plus forcément parce qu'ils sont trop, on dit bloated en anglais, c'est bouffi d'activités. Là, il y a plein d'activités aussi, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus arcadifié. Ça cherche pas à être un simulateur de monde, ça cherche vraiment à vous donner des activités que vous allez faire. Et le gameplay en lui-même, entre les différentes armes qui n'ont pas des milliards de loot à looter, mais qui sont juste des capacités spécifiques... le combat qui fonctionne vraiment avec les classiques, hein, quand on évite un coup juste au dernier moment, ça ralentit le jeu, on a une barre de stun, on a un gros coup, un petit coup, on a un double saut avec des ailes, on a le système de stamina, encore une fois un petit peu comme Breath of the Wild. En gros, ce que je veux dire, c'est que de ces premières heures en tout cas, ça fonctionne très bien, c'est très sympa, et moi j'y prends beaucoup de plaisir. Je veux dire un petit mot sur la narration qui est en mode, bon, on peut pas refaire un jeu sur la mythologie grecque sérieux parce qu'on vient de le faire avec Odyssey et on a déjà beaucoup de similarités avec Odyssey. Donc c'est un petit peu genre le narrateur qui, c'est pas un gros spoiler, mais c'est Zeus qui parle à Prométhéeus, Prométhéeus qui raconte l'histoire de Phénix, et c'est un petit peu, on casse le quatrième mur et on est très self-aware de ce qu'on dit, et à un moment Prométhéeus il dit alors là il s'est passé tel truc et Phénix était en train d'avancer sur un pont et il y a Zeus qui fait c'est chiant ton truc, bon, et là elle a rencontré quatre monstres terrifiants, et donc dans le jeu, toi qui es en train d'entendre la narration, il y a des monstres qui apparaissent à ce moment quand Zeus dit qu'il y a des monstres qui sont apparus, et donc ils apparaissent dans ton jeu. Ok, et puis il y a des trucs, comment dire, c'est un humour un petit peu, c'est pas que c'est limite, mais c'est un petit peu, bon ok, c'est genre, il a reçu l'épée d'Achille, oh, Achille l'aimait bien, et il lui a donné un bon coup d'épée, ce genre de truc, et c'est genre, ok, d'accord, bon, très bien, c'est pas gênant, c'est un petit peu malaisant, pas parce que c'est pas politiquement correct, c'est pas ça le problème, c'est juste que ça tombe pas humoristiquement, ça fonctionne pas, je trouve. Ou en tout cas, ça fonctionne que une fois sur 4 ou 5. Donc bon, mais à part ça, j'ai l'impression que j'ai donné plus de critiques sur ce jeu que de points positifs. Mais vraiment, entre Fuser et Immortals qui sont sur ma Switch, que je vais prendre dans mon super week-end, j'ai vraiment envie de jouer à Immortals. Fuser, je crois que je vais un petit peu me forcer pour voir ce que ça donne en plus de 2 heures, quoi.
Voilà. A priori, est-ce que l'écriture du jeu, etc., c'est pas aussi un truc parce qu'on voit un peu, t'as l'impression que c'est un peu un open world destiné aux plus jeunes, enfin tu vois, genre c'est mon premier open world. Est-ce que cet humour est pas un peu adolescent, jeune ado, ou alors un peu, enfin je sais pas, j'ai pas joué donc je peux pas te dire.
Moi, je crois que mon impression, c'est que j'ai entendu cette comparaison dans un podcast, je ne sais plus lequel, mais elle est assez bonne. C'est un petit peu à la Borderlands 3, qui...
D'accord.
Bon.
Qui moi, me fait rire personnellement, hein, vraiment.
Il bah, y a des gens que ça fait rire.
Qui me fait beaucoup rire.
Mais c'est un petit peu moins outrancier que Borderlands. Donc, tu vois, c'est ouais. Borderlands, mais c'est pas non plus, pour répondre à ta question directement, c'est pas pour adolescents. Je crois que le jeu est simple pour gens qui veulent pas se prendre la tête, mais pas forcément pour les plus jeunes. C'est pas un truc qui est... j'ai pas l'impression que ça soit un jeu particulièrement accessible au niveau du gameplay, tu vois, au niveau du combat. C'est quand même pas simple, il y a plein de différentes combinaisons à utiliser, habilités différentes, etc. C'est pas mon premier open world, c'est pas un open world pour bébé, je crois pas. C'est juste un open world plus arcade.
Ouais, ok, ça c'est ce qui est plutôt bien, tu vois, là-dessus.
Ah oui.
Et puis, ce que je disais, c'est que globalement, ce qui est très réussi, c'est l'exploration du monde ouvert qui est très plaisante, en fait, qui est très très agréable, très voilà, il y a toujours un truc à faire en même temps. C'est une formule inspirée beaucoup encore une fois de Breath of the Wild, mais ça a l'air plutôt, en termes d'open world. Après, Ubisoft, on peut leur reprocher pas mal de choses, mais des open world, ils savent faire, donc c'est pas très surprenant. Mais ça a l'air d'être un open world plutôt réussi, quoi.
Oui, je trouve aussi, pour l'exploration du monde, il y a, alors évidemment, les histoires des tours qui vont débloquer une partie du monde. Et c'est marrant parce que Hugo de Game Next Door disait un truc à ce propos avec un tweet qui comparait Immortals et Breath of the Wild. Et il disait, ah mais vraiment, que Ubisoft singe Breath of the Wild sur des trucs comme les tours, c'est scandaleux. Et là, les trois quarts des réponses n'ont pas compris l'ironie du truc, quoi, que Ubisoft popularisé les oui. tours qui débloquent le... Enfin bon, bref, oh. et que Zelda l'a repris. Mais bon, peu importe, il y a une sorte de mélange entre... En gros, ils font un petit peu à la Zelda, mais ils vont pas au bout du truc. C'est-à-dire que quand tu montes sur les tours, tu peux surveiller l'environnement, observer l'environnement, et quand ta manette vibre un peu, tu appuies sur un bouton pour révéler une activité sur la carte. Et une fois que tu l'as révélée, elle est sur la carte à jamais. Donc, c'est pas que quand tu arrives en haut de la tour, ça te révèle toutes les activités de la carte. Tu peux les révéler toi-même en les cherchant. Mais d'une part, c'est rapidement fastidieux de faire ça. Alors que sur Breath of the Wild, tu vois, tu observes vraiment l'environnement et tu places un marqueur pour aller à un endroit, pour te souvenir de l'endroit que tu as vu au lointain et que tu dois y aller. Ce n'est pas que ça te met une icône sur ta carte. Là, ça te met une icône sur ta carte et bon, c'est comme si ça t'avait révélé le truc, en fait. Et pire que ça, une fois que tu es descendu de la tour, bah, tu peux toujours passer dans ce mode observation, sauf que comme tu n'es plus en hauteur, bah, tu tournes ton curseur sur ton environnement et tu vois les trucs qui sont juste autour de toi et tu essayes de sentir quand ça va vibrer dans cette zone, mais en fait, tu vois rien. Tu vois pas les petits indices visuels qui vont dire là, il peut y avoir un truc parce que tu es trop bas et ta vue est obstruée par tous les décors qu'il y a autour de toi. Donc, ils sont pas allés au bout du truc et donc je trouve que ça fonctionne pas hyper bien. Bon, après, c'est pas la fin du monde. Quand tu es en haut des tours ou quand tu es en hauteur, tu peux effectivement mieux le faire. Bon, voilà. Après, il y a d'autres similarités avec Breath of the Wild. Il y a l'histoire du pouvoir magnétique. Là c'est un truc de Hermès qui te donne plus de force. Enfin, bref. Je sais pas encore, après quelques heures de jeu, si c'est Breath of the Wildien ou pas. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que l'aspect Breath of the Wildien, hormis l'histoire de la stamina qui marche vraiment de la même manière, ça s'oublie assez vite. C'est pas que c'est juste cosmétique, il y a même des mini-donjons, les temples dans Breath of the Wild. Il y a même ça dans le jeu. Il y a clairement des inspirations, je veux dire, ils s'en cachent même pas, mais je trouve que ça fonctionne. Donc, je suis pas du tout énervé contre le jeu, et au contraire, je trouve que ça fonctionne très bien.
Bah voilà, tant mieux. Surtout que pour le coup, c'est une bonne surprise, quoi.
Et puis, je suppose que pour les fans de Zelda, bah, ça, c'est juste un clin d'œil qui fait que bah, t'as envie d'aller sur un autre jeu qui ressemble un peu. Enfin, je sais pas, hein, mais... Ça peut donner envie, quoi.
Moi, c'est ce que je me dirais, mais les fans de Zelda que j'ai entendus, peut-être parce que c'est les plus vocaux, ils sont plutôt dans l'ambiance c'est un scandale, il faudrait les condamner. Ouais, voilà. Enfin bon, les fanboys, on sait comment ils fonctionnent généralement. On demande dans chatroom, c'est 25-30 heures de durée de vie, donc c'est pas un petit jeu, hein, c'est un vrai jeu complet, et on pourrait parler de l'intention de d'Ubisoft de sortir 3 open world géants en 2 mois entre Watch Dogs Legion, Assez Valhalla et celui-là, mais bon, on ne le fera pas, ça prendrait trop de temps, mais bon. Conclusion, malgré toutes les discussions négatives que j'ai eues, j'ai vraiment envie de continuer à y jouer et je pense qu'à ce stade, c'est peut-être le jeu Ubisoft qui me plaît le plus de tous ceux que j'ai vus cette année. Justement, puisqu'on parle de jeux Ubisoft, vous avez tous les deux joué à Assassin's Creed Valhalla. On en a parlé ces dernières semaines, donc pas la peine de refaire tout le topo, mais juste nous dire ce que vous en pensez en quelques mots. Peut-être, Ophiel, qu'est-ce que tu penses du jeu?
Alors, qu'est-ce que je pense du jeu? J'étais très contente à la base de revenir sur un Assassin's Creed côté viking et tout ça parce que j'avais un peu abandonné durant Odyssey. Après 30 heures de jeu, j'arrivais toujours pas à accrocher, donc bon voilà. Et là, je me suis dit, ah bon, bah, l'univers, vas-y, j'aime bien, ça va être cool. Et je me rends compte que j'ai encore toujours beaucoup de mal à me replonger dedans, si bien que je préfère faire plein d'autres jeux plutôt que celui-là.
Ah, malheur.
Mais c'est dommage parce que j'adore les Assassin's Creed, mais je sais pas, je trouve que le gameplay est pas fun en fait. Quand tu parcours la map, tu vas piller les monastères, tu débloques des trucs, tu fais les quêtes principales, mais il y a rien de fun. Il n'y a pas ce petit goût de reviens-y, on t'a mis sur une piste qui fait que au niveau de l'histoire ou quelque chose, tu as cet attrait à te dire oh, vas-y, j'ai besoin d'y jouer là. Donc
je suis un petit peu dans cette optique aussi. Je continue à l'observer pour voir si ça va changer avec le temps, mais Je suis un petit peu dans cette optique aussi. J.K., est-ce que toi, tu y prends plus de plaisir ? Il y a des gens qui l'apprécient beaucoup. J'ai l'impression
bah alors, en fait, moi, j'y ai pas beaucoup joué. Hein.
Ah, pardon, j'ai cru que tu y avais joué.
Non, alors en fait, j'ai fait ce que je fais souvent sur jeuxvideo.com, je regarde comment il tourne sur PC, donc j'y joue un peu sur PC, je fais des benchmarks, etc. Alors moi, et c'est vrai que là-dessus, bah, c'était vraiment hyper décevant parce que la version PC, alors au lancement, il y a eu des mises à jour qui ont un peu arrangé les choses, mais au lancement, c'était quand même la cata en termes de performance. Il y avait vraiment des problèmes pour sur des cartes à 700 balles ou à plus, tu pouvais pas jouer à 60 FPS sur Ultra HD, ce qui est attendu aujourd'hui sur ces cartes-là, sachant que t'as à peu près ces performances-là sur les nouvelles consoles. Donc c'était vraiment hyper décevant. Et là, cette année, pour le coup, chez Ubi, c'est un peu la douche froide, les versions PC, parce que Watch Dogs Legion avait le même problème d'optimisation sur PC. Donc les versions PC des open world d'Ubi, alors Phoenix Rising, j'ai pas essayé, mais en tout cas Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legion, c'est pas trop ça. Donc si vous avez le choix, je pense, entre une version Xbox Series ou PS5 et PC, bah, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers les versions console, quoi.
D'accord. Bon, bah, écoute, c'est bon à savoir. Il y a des jeux auxquels tu as joué, par contre. Du coup, je vais te donner la parole. En même temps, je crois que tous ceux auxquels tu as joué, on en a déjà parlé, mais c'est lesquels que tu as testé ?
Ouais, c'est pour ça, on va pas. Bah, moi, je suis en mode. Pour le coup, je suis en mode PS5 là, depuis une semaine, deux semaines quasiment. Donc, j'ai pris, sans grande surprise, Demon's Souls et Spider-Man, pardon, Miles Morales.
On a parlé des deux, mais vas-y.
Et franchement, non, mais ce qui est assez cool, en fait, je vis une expérience formidable. C'est, je passe, en général, je commence par une session de Demon's Souls pour bien me stresser, tu vois, bien être tendu, bien, vraiment, je me sens pas bien, mais en même temps, j'adore ce jeu. Enfin, vraiment, c'est un remake absolument incroyable. Et en plus, contrairement à des Dark Souls, je trouve que le jeu est plus abordable et un peu plus facile, dans le sens où les boss, en fait, la plupart du temps, et ce qui est plutôt pas mal, la plupart du temps, les boss en fait sont plus des énigmes que des vrais combats où il faut énormément de skill. C'est qu'une fois que tu as trouvé l'astuce pour battre les boss, ça passe quand même assez facilement. Donc ça, c'est quand même très cool. Voilà. En plus du travail artistique qui a été réalisé, qui est formidable. Donc je passe de ça, qui est quand même une expérience quand même bien dure, bien vénère, à après Miles Morales, qui est un truc je trouve hyper feel good, hyper voilà. Évidemment, t'es pris de liberté, t'es dans New York avec tes toiles, t'as un personnage qui est hyper hyper cool. C'est en plus c'est un jeu hyper bienveillant, je trouve. Il y a vraiment ce côté c'est très positif, c'est fun à jouer, etc. Enfin, vraiment, j'adore Miles Morales, sachant que pour le coup j'ai pas fait le Spider-Man de la PS5, donc je découvre vraiment la formule, en fait.
Ah oui, d'accord.
À travers ce spin-off, donc je pense que du coup je vais peut-être faire le remaster après, parce que du coup j'ai acheté la version avec le remaster du PS5, et du coup c'est très très cool de passer en une soirée de Demon's Souls à Spider-Man. Je trouve que c'est vraiment deux compléments parfaits pour passer une bonne soirée, et je trouve que pour le coup même si c'est alors Miles Morales n'est pas vraiment une exclusivité de la PS5, mais c'est quand même deux très bons jeux de lancement, vraiment très sympa, je trouve.
Bah, du coup,
donc voilà, très content, je pense qu'on est au moment de la PS5.
On est assez d'accord sur ces avis-là. Ophiel, tu voulais ajouter quelque chose ? Sinon,
non, j'allais dire oui, c'est vraiment deux salles, deux ambiances.
Ouais.
complètement.
Je suis totalement d'accord. Moi, je sais que tout ce qui est Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, je les fais pas parce que ça me fait peur et que je suis vraiment nulle à ça. Mais pour le coup, par rapport à Spider-Man et Miles Morales, j'avais fait donc le précédent sur PS4, j'avais déjà adoré. Donc aucun doute par rapport à ce Miles Morales qui est toujours dans la même veine et très finoude, hein, comme tu as dit. C'est un gros kill d'être sur ce jeu.
Ce que je voudrais rajouter, c'est que moi, je me rends compte en fait que maintenant les open world que j'aime, c'est vraiment ce genre d'open world là. C'est pas immense, mais il y a plein de trucs à faire. Il y a une histoire qui est hyper hyper, c'est bien rythmé. En fait, t'as pas de temps mort. C'est pas tu dois passer 50 heures pour traverser une map comme dans un Assassin's Creed et faire 50 quêtes annexes qui sont pas forcément passionnantes. Là, je trouve que c'est un open world que tu peux a priori que tu termines. Je l'ai pas fini, mais que tu peux terminer en 15 heures, tu vois. Je trouve que c'est vraiment si en plus tu t'attardes sur les quêtes secondaires. Et pour moi, je trouve que c'est la bonne formule aujourd'hui dans les open world, quoi. Et donc, je suis vraiment ravi d'apprécier enfin, parce que moi, les open world, en fait, au final, ça fait quand même quelques temps que ça finit par me gaver sérieusement. Et là, je suis content d'apprécier un open world vraiment vraiment comme il faut, quoi.
Eh ben écoute, ouais. Je pense que tu as exactement la bonne outlook dessus. On va refermer ce petit break sur les jeux qu'on a déjà évoqués par le passé. Et du coup, je vais poser la question que je veux poser depuis le début de cet enregistrement à Stéphania. Sakuna of Rice and Ruin, c'est quoi? Dis-moi
alors...
tout.
Ouh, vaste question, parce que même moi, j'ai même pas encore compris quel était ce jeu.
D'accord.
J'y ai pas joué énormément, mais c'est un jeu que j'avais découvert, je crois, soit à la Gamescom, soit à l'E3, et le style m'avait vraiment beaucoup plu, que ce soit au niveau des graphismes et tout ça, même si je savais pas de quoi ça allait parler. Et du coup, là, j'ai pu le tester. Le jeu est assez énigmatique dès le début parce que bon, on comprend pas trop ce qui se passe. Alors tout le jeu est en anglais, donc il faut s'y attendre. Et je ne pouvais pas changer la langue, sauf peut-être pour mettre du japonais, donc non.
Mais c'est quoi ? C'est un platformer ? C'est un jeu de gestion ?
Alors moi, je croyais que c'était un platformer au début, mais c'est pas vraiment le cas. C'est entre c'est du scroll horizontal. Tu as de la simulation et de la gestion parce que, en fait, donc en gros, on est une déesse des moissons et suite à toute une série d'événements, on se retrouve exilé avec un groupe d'humains sur une île qui est prise par des démons. Donc il faut la libérer. Et en gros, le but, c'est de, donc on est dans une ferme et c'est de faire pousser du riz parce que ça va développer nos skills de combat. Et à côté de ça, c'est nettoyer des petits donjons, donc toujours en scroll horizontal, grâce à nos pouvoirs. Et en fait, on peut s'accrocher aux mobs et tourner autour, enfin tout ça, etc.
Et, donc il y a quand même du gameplay d'action, quoi. C'est...
Ah oui, c'est... Alors quand on est dans les phases donjons, comme on voit là à l'image, on tue du mob dans des cavernes, hein, et voilà, là on a nos phases de combat. Et après, il y a toute la phase dans la ferme où il faut faire pousser son riz, on récolte des aliments, donc il faut pouvoir, on fait des repas le soir et ça nous donne des bonus pour la journée pour aller combattre, etc. Mais en fait, le jeu donne des tutoriels au fur et à mesure qu'on avance. Donc je ne sais même pas encore de quoi demain sera fait, parce que j'apprends au fur et à mesure du jeu.
C'est quel jeu qui avait, comment il s'appelle, qui a des phases effectivement de farming, enfin c'est un jeu de gestion de ferme quoi, où il faut enlever les mauvaises herbes, planter les plants de riz, etc. Et on parle de Sakuna là, mais il y a un autre jeu, c'est pas... De quel jeu je...
Harvest Moon.
Peut-être.
Oui, non, j'allais dire soit ça, soit aller... Stardust Valley. Mais
ouais, ce genre de choses. Ouais. Et on va aller explorer des donjons aussi pour. Mais c'est beaucoup moins axé sur l'action de ce que je sais.
Mais je crois que c'est Stardust Valley, non ?
Oui, je crois que c'est celui-là, oui, on a des petits donjons. Et ce que j'entendais, je crois que c'était Daniel Andreev qui en parlait. Il disait qu'on a vraiment dans Sakuna. Ils ont réussi à distiller l'essence du Japon rural et des rizières. Et alors moi, j'ai pas passé beaucoup de temps dans les rizières au Japon, j'étais plutôt dans les grandes villes, mais c'est un aspect qui a l'air assez intéressant dans ce jeu. Est-ce que tu le ressens déjà ou pas vraiment ?
En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est justement voilà, me balader, pouvoir récolter des choses. On peut parcourir donc la rizière, mettre l'eau pour qu'elle arrive et qu'elle inonde les plants, enfin etc. Et on a tout ce côté un peu Japon, féodal, rural. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimais bien. En plus, il y a petit côté mythologie et créature aussi finalement, donc on le ressent. Après, il y a beaucoup de blabla dans le jeu, donc des fois c'est un peu embêtant, il faut un peu skipper, d'autant plus que c'est en anglais, on n'a parfois pas tout envie de lire. Mais ce côté est présent. Après, est-ce que c'est bien fait ou pas ? Clairement, je ne sais pas, je ne suis pas allée dans les rizières.
Ouais. Mais il y a cet aspect.
C'est assez joli. Oui, mais c'est assez joli et attirant pour se laisser porter, en fait. D'autant plus que ce soit côté graphisme ou musique, c'est vraiment très chouette.
D'accord. Écoute, c'est vrai que ça a l'air intriguant comme jeu. Je ne sais pas si c'est forcément ma cam, mais il est dispo, je crois, sur Xbox et Switch, et sans doute PlayStation, parce que c'est un jeu à tendance japonaise. Mais
Oui, moi, j'ai joué sur PS4, PS5. Parce que du coup, qu'on peut l'installer sur la PS5 et il tourne.
Évidemment.
Il tourne bien. Mais je pense qu'il doit être dispo tout à fait sur les autres consoles.
J'imagine, ouais.
C'est pas une exclu.
Ouais, alors ils disent effectivement dans la review que je suis en train de regarder, Steam, PlayStation 4, Switch, donc je pense sans doute pas Xbox, puisqu'ils ne le disent pas, mais parce que je voyais les boutons Xbox, mais peut-être qu'ils jouent sur Steam avec une manette Xbox. Bon, en tout cas, un jeu original, qui a le mérite d'être original, et tu joues aussi à la dernière grosse exclue PlayStation dont on n'a pas du tout parlé pour le coup dans cette émission, c'est Sackboy, c'est A Big Adventure, c'est ça?
Oui.
J'ai l'impression...
Je pense à un truc comme ça.
Pardon?
Je crois que c'est Little Big Adventure, ou je ne sais plus,
C'est Sackboy, a Big Adventure. Coup, c'est une exclue PlayStation 5. Et je crois qu'il souffre un petit peu de la comparaison avec Astro's Playroom parce que c'est un petit jeu mignon de plateforme. Et comme tout le monde a déjà Astro's Playroom dans la console, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Bon, bah ok, un petit jeu de lancement, c'est pas forcément nécessaire de s'y intéresser. » Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il vaut le détour ou pas?
Alors moi j'y joue carrément pour l'affect, parce que Astro, certes ok il est dans la console, mais ça m'intéressait plus que ça. Je ne fais pas partie des gens qui ont platiné ce jeu en premier, par exemple, mais pour le coup Sackboy pour moi c'est l'affect avec toute la licence Little Big Planet. On retrouve tous les codes, les mêmes bugs aussi, ça arrive, et c'est ce plaisir de retrouver Sackboy et collecter des petites bulles, des tenues. Enfin, pour moi, c'est carrément... et en plus, alors je ne sais pas pour le coup pour Astro, mais là, on peut jouer à plusieurs. Alors certes, en local, mais pour l'instant. Mais tu as le côté multi, quoi, qui est très, très
D'accord.
chouette.
D'accord. Et donc, le jeu, il est vraiment sympa.
Il est fait qu'en multi.
D'accord, ok. Ouais. En multi-local, donc tu joues... ouais, je comprends. Mais est-ce qu'il est vraiment sympa en tant que platformer? Parce que moi, évidemment, dès qu'on me parle de platformer, je pense à Mario. Et je suis toujours déçu de n'importe quel platformer parce qu'il est moins bien qu'un Mario. C'est peut-être un peu injuste, mais sans aller jusque-là, est-ce que tu prends du plaisir au niveau plateforme? Est-ce que c'est tout bête, hein, mais le saut fonctionne bien, la course est bonne, c'est pas trop dur. Enfin, c'est dur, mais pas frustrant. En gros, je sais pas, je te demande s'il est bien,
le jeu. En fait, alors pour moi, oui, il est bien. Après, comme je disais, il y a toujours les mêmes bugs, dans le sens où on ne sait jamais trop où tu vas sauter, si tu t'es bien accroché à quelque chose, etc. Donc, il y a certaines vues, en fait, quand tu es dans certains niveaux, tu vois vraiment pas ce que tu fais. Le fait de jouer en plus à plusieurs rajoute en difficulté, parce que clairement... quand il y en a un qui ne suit pas, après c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est l'essence même d'un Little Big Planet, donc c'est ce qu'on recherche, quoi. C'est pas, je peux pas le comparer à d'autres plateformeurs en me disant il est mieux, il est moins bien, etc. C'est du Little Big Planet. Et c'est ça qui fait son charme.
D'accord. Bon bah écoute, je pense que c'est assez clair. Je crois que il y a d'autres jeux auxquels tu as joué, mais je crois qu'on va avancer parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur tous ces jeux-là. Peut-être juste en deux secondes, tu joues à Animal Crossing New Horizons encore et à Gems
of
War. Animal Crossing, c'est toujours fun, mais c'est toujours la même chose, j'imagine. Gems of War.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est quoi?
Alors, c'est un jeu qu'on m'a conseillé parce que tous mes potes y jouent. Et en gros, c'est une sorte de BJ Weld avec des cartes. Et quand tu fais tes combos avec les sphères, ça donne des bonus à tes cartes. Et après, t'attaques avec... Sincèrement, c'est pas un grand jeu, mais ça a le mérite de faire des mini-parties très très rapides sur la console. Donc, Voilà.
D'accord. Bon, c'est un petit match 3 avec des cartes. Un truc de ce genre.
C'est ça.
OK. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux de toutes vos impressions sur tous ces jeux. On va faire... J'ai pas vu le temps passer, hein. Ça fait déjà presque une heure qu'on est dans l'émission et j'ai pas vu le temps passer, c'était juste une heure de plaisir, mais on va continuer. On va quand même faire une petite pause pour que je parle de quoi ? De Patreon, patreon.com/rdvjeux. Vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission et si vous appréciez le rendez-vous jeu, peut-être que vous avez... envie à un moment, peut-être que vous vous dites, mais Patrick, il est sympa. Quand je reçois le podcast sur mon application, je me dis, bah, je vais passer un bon moment aujourd'hui. Donc, peut-être que pour tous ces bons moments que je partage avec lui, bah, j'ai envie de permettre à cette émission d'exister, de participer à la production de l'émission. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et non seulement vous avez tout plein de bonus, comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub dans vos épisodes. Même cette petite partie au milieu où on parle de Patreon, ben, vous ne l'avez pas parce que vous êtes déjà patriote, donc vous avez accès au flux privé du Patreon. Vous pouvez aussi avoir les time codes pour passer d'un moment de l'émission à l'autre s'il y a des passages qui ne vous intéressent pas. Vous avez des bonus, vous avez l'after show que vous pouvez écouter où on étend encore les discussions avec les auditeurs. Bref, il y a tout plein de bonus que vous pouvez avoir, mais surtout, surtout, le truc important, c'est que, vous vous souvenez, hein, je vous dis à chaque épisode, quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol à l'entrée, ça fait cling, et là vous vous dites « Patrick !» Cling, Patrick, moyen mnémotechnique de se souvenir qu'il faut aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Et à chaque fois, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et vous dites « Ah ouais, je soutiens toujours pas l'émission, bon, peut-être qu'il faudrait, mais je sais pas ». Vous avez une sorte de petite culpabilité naissante en vous quand même. Et bien là, si vous devenez patriote, cette culpabilité se transforme en quoi ? En fierté. En fierté, messieurs, dames, vous vous dites « cling » et là, c'est « eh ben ouais, mon gars, moi, je soutiens le rendez-vous jeu, c'est une émission super cool, un créateur que j'apprécie, une rigueur, une éthique, une certaine approche du jeu vidéo, une approche plaisante, inclusive, sympathique, raisonnable, raisonnée. Eh bien, moi, je soutiens ça et vous avez la fierté. « Cling, Patrick », ça devient de la fierté, messieurs, dames. Donc, pourquoi ne pas aller sur patreon.com/rdvjeux ? Bah franchement, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je vais vous dire, bah faudrait peut-être le faire. Je dis pas, il faut le faire pour forcément immédiatement devenir patriote, mais allez regarder ce que ça propose. Ça prend 2 secondes, vous pouvez le faire sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire sur votre ordinateur quand vous êtes en train de bosser, patreon.com/rdvjeux. Et merci à tous ceux qui le font déjà. Alors, il y a eu plein de mises à jour sur plein de consoles, enfin sur les 3 consoles qui nous intéressent désormais, parce que la old gen, hein, c'est vieux, on s'en fout maintenant, mais sur la Xbox série X et S, sur la PS5 et même sur la Switch. Les mises à jour de la Xbox série X, on va commencer par ça. Bon, il y a eu des mises à jour qui ont changé des trucs comme les arrière-plans dynamiques, il y a des nouveaux badges, ce genre de choses, c'est pas hyper important, mais il y a aussi le fait de pouvoir précharger les jeux qui vont être disponibles dans le Game Pass, que je trouve assez cool, c'était déjà possible avec les jeux qu'on voulait acheter, on pouvait les précharger pour pouvoir y jouer, enfin avant même de les acheter. Là, on peut aussi le faire pour les jeux qui vont être disponibles dans le Game Pass. Et puis, puisqu'on parle de Game Pass, il y a plein de jeux qui arrivent là en décembre, entre le 3 et le 15, je crois, notamment Control. Control arrive dans le Game Pass, c'est quand même l'un des gros jeux de l'année dernière, si je ne m'abuse. Greedfall, qui a été particulièrement apprécié. Dragon Quest 11 en version S, donc la version avec les musiques orchestrales, etc. Et pas mal d'autres qui arrivent. Il y a Doom Eternal qui arrive sur Game Pass PC, etc., etc. Et bon, je pense qu'on est un disque rayé maintenant, mais le Game Pass, c'est quand même grand deal des consoles aujourd'hui. Il y a un jeu que tu recommanderais particulièrement, JK, dans le lot ou pas spécifiquement ?
Globalement, contrôle, ouais, contrôle, c'est vraiment une super expérience. Que ce soit, c'est un très bon TPS. En plus, c'est un univers très, très, très intéressant, vraiment pas mal du tout. Doom Eternal, on va pas revenir dessus. Voilà, c'est beaucoup qui arrive dans le Game Pass, c'est quand même pareil, une sacrée news. Donc, ces deux jeux-là, déjà, ce sont d'excellentes nouvelles. Ah oui, et Dragon Quest. Et Dragon Quest, figure-toi que Dragon Quest version S, là, je l'ai pris sur Switch, parce qu'il était en promo. Et il y a plein, ce qui est très cool, c'est qu'il y a plein de petites améliorations, même de gameplay, de confort de jeu, en fait, que t'as pas dans la version originale. Ce qui fait que quand t'es un amateur de JRPG, on va dire modéré comme moi, c'est vachement plus agréable à faire, quoi.
Je suis assez d'accord. Moi, je vais pas me relancer dedans, mais j'aurais presque envie. C'est vraiment une question de temps. Je veux mentionner aussi Haven de The Game Bakers, qui va être dans le Game Pass sur console et sur PC. Control, c'est uniquement sur console et sur cloud. Mais il y a Haven que je suis très curieux de voir. Vraiment, je suis très curieux de voir ce que ça donne.
Les tests je pense que les tests vont tomber aujourd'hui ou demain là, et c'est assez prometteur. Ouais.
D'accord.
C'est assez prometteur. Il y a un autre jeu que je vais citer. Pardon.
Vas-y.
Il y a un autre jeu qui arrive le 8 décembre, pareil, il est lancé le 8 et il est direct dans le Game Pass, qui a l'air plutôt pas mal, qui m'intrigue beaucoup, c'est Call of the Sea, ça s'appelle, qui est un jeu d'exploration
sur une île.
Qui a l'air de se passer dans les années 30 avec des mystères, un truc qui a l'air vraiment assez narratif, mais moi ça m'intrigue beaucoup.
D'accord, oui, il y a encore, encore une fois,
on a de quoi faire.
Si on avait besoin d'une preuve, il y a aussi sur console Superhot Mind Control Delete. Je peux vous faire je peux vous avouer un truc, je peux vous faire une confession. Qui va tout de suite me... Il y a la police du gaming qui va débarquer chez moi dans les 10 minutes. Je vais vous faire une confession. Attendez. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va vous choquer.
J'ai peur.
Ouais. Je vais pas le dire trop fort parce que j'ai un petit peu honte. J'ai jamais joué à Superhot.
Désolé. Bah ouais, mais c'est pas. Alors déjà c'est pas si grave et tu sais même c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu vas découvrir un super jeu. Après c'est un concept. Alors c'est un concept hyper assez particulier.
On peut
ne pas accrocher. On peut ne pas accrocher. Et en plus Mind Control Delete, moi je suis pas très fan de Mind Control Delete. Je préfère
le super jeu. La version originale. Ouais. D'accord.
Mind Control Delete c'est à une forme de roguelite et je trouve que c'est pas forcément une formule qui colle très bien. Avec le jeu d'origine, donc je suis pas très convaincu. Sachant que la meilleure expérience Superhot, par contre, c'est Superhot VR.
C'est en VR, ouais, incroyable. Bien sûr. Il faut, oui, d'accord. Pas le temps, j'ai trop de jeux. Et il y a d'ailleurs même Slime Rancher, qui est un jeu qui a l'air marrant, qui arrive sur console aussi. Enfin, il y a trop de trucs. Bon.
J'avais bien aimé Gridfall dans la liste.
Ouais, Gridfall, qui a eu d'assez bonnes reviews quand même, qui est un jeu français d'ailleurs, donc... qu'on ne peut qu'encourager, effectivement. C'est Spiders, Gridfall ? Je ne sais plus.
C'est Spiders.
Spiders, c'est marrant parce qu'on a reçu dans l'émission... vous savez, c'est un truc que j'aime bien faire dans l'émission, moi, c'est recevoir des développeurs, mais pas pour qu'ils nous parlent spécifiquement de leur jeu, juste pour qu'ils nous parlent de l'actu, comme tout le monde. Et ils ont souvent un regard hyper intéressant sur ces choses-là, avec des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et à chaque fois qu'il y a un jeu français dont on parle, on a le privilège dans l'émission d'avoir reçu une ou plusieurs des personnes qui travaillent dans les studios, donc ça me fait toujours très plaisir. Il faudrait que j'essaye d'avoir des gens de Game Bakers. Fury était hyper sympa et Haven, j'ai hâte. Donc, bon, bref. On en parlera la semaine prochaine de Haven. Quoi d'autre ? Sur Switch, il y a eu une mise à jour aussi avec des nouveautés comme des choses qui facilitent, on va dire, la gestion des données. Il y a le transfert automatique sur le cloud, etc. Il y a plus de facilité pour prendre des photos et les transférer. Mais la news Nintendo, en plus de l'arrivée de Doom Eternal la semaine prochaine, la news de Nintendo, c'est l'ouverture du Super Nintendo World le 4 février au Universal Studios de Osaka. avec une première, un premier reveal du Mario Kart, comment il s'appelle, Mario Kart Ride, du ride Mario Kart en gros. Et comment dire? Comment dire? Je suis pas, oula, je sais pas si ça vous parle ou pas. Moi, j'ai pas été. En gros, on est sur des rails, bien sûr. Il y a deux séries de cartes, les uns derrière les autres, qui vont s'affronter avec des casques de réalité augmentée. Et il va falloir faire des trucs quand on est sur les cartes. Bon, peut-être que ça sera génial, mais je suis peut-être pas le bon public parce que déjà, je suis pas super fan de parcs à thème. Mais vous avez envie de vous y précipiter ou ça vous dit pas non plus? Peut-être pas tout de suite là, parce qu'en février, je sais pas s'ils auront vaincu la pandémie déjà au Japon. Hein.
Ouais, non, mais bah oui, enfin oui, moi à fond la caisse. Moi, je suis plutôt client des parcs à thème, donc j'ai super
toi,
envie de voir ça.
D'accord.
Même si le land de Star Wars, le futur land Star Wars de Disneyland, m'attire encore plus, mais quand même, tu l'as.
D'accord.
Ça a l'air rigolo. Après je pense que ça va être. Après, je connais pas les parcs à thème japonais, mais ça a l'air bien dense, mais ça a pas l'air très grand. Je suis pas sûr qu'il y ait bien des trucs à faire, à voir. Quoi.
C'est un petit peu l'impression qu'on a aussi. Ouais, la partie Nintendo risque de pas être immense dans Universal Studios, mais bon, il commence petit, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ophiel, toi, tu vas te précipiter dans ce truc avec ces casques de réalité augmentée.
Ça me tente carrément. En plus, je sais qu'ici à la maison, il y aura un autre très grand fan qui sûr qu'il ferait faire ça. J'ai pas spécialement d'affect avec Nintendo et Mario, encore moins. Mais pour le kiff, sincèrement, je pense que c'est toujours bien à voir. C'est toujours bien fait, donc ça me dérangerait pas du tout.
D'accord, bon. Bah écoutez, le jour où on pourra retourner dans les parcs à thème, peut-être que ça sera quelque chose à faire si on est au Japon. Dernière mise à jour avant de passer très rapidement aux news rapides, c'est sur l'OS de la PlayStation qui rajoute quelques petits trucs qui sont pas très importants, mais surtout il y a Horizon Zero Dawn qui arrive sur le PlayStation Now de manière permanente. Donc si vous êtes abonné PlayStation Now, c'est vrai qu'on fait toujours la part belle au Game Pass et c'est compréhensible parce qu'il a des jeux beaucoup plus récents du côté de la Xbox, mais il faut pas forcément oublier le PlayStation Now qui a des atouts aussi avec certains jeux de qualité. D'ailleurs une partie des jeux que j'apprécie sur Game Pass, qui ne sont pas forcément les plus récents, sont aussi sur PlayStation Now, donc c'est marrant de voir ça. Mais encore plus important que ça, c'est un article de Patrick Klepek sur Vice, qui a révélé des documents internes de Sony pour les présentations aux développeurs, notamment de la fonctionnalité des activités. Et c'est marrant parce que c'est exactement les conclusions auxquelles on était arrivé en voyant la fonctionnalité présentée. Et je trouve, ça va surprendre personne parce que je suis assez fan de la fonctionnalité, qu'il y a énormément d'intelligence dans cette réflexion. Ils présentent des choses comme... Alors, ils disent plusieurs choses. D'une part, ils parlent de l'idée que les jeux solo sont en train de mourir. Et ils disent... il faut vraiment se méfier de ces trucs que, entre guillemets, vous entendez les guillemets, hein, tout le monde sait. Depuis 3 ans ou 4 ans, tout le monde dit « Oh, il n'y a plus de jeux solo, les développeurs font que du multi, le jeu solo est en train de mourir. » Et bon, d'une part, ce n'est pas du tout vrai depuis 3-4 ans et depuis avant, il y a toujours énormément de jeux solo. D'ailleurs, si vous regardez les meilleurs jeux de ces deux dernières années, je pense qu'on c'est une preuve irréfutable. Mais après, dans la présentation, il disait « Évidemment, selon nos métriques, les joueurs passent énormément de temps dans les jeux solo et c'est pour ça qu'ils ont réfléchi à cette fonctionnalité d'activité qui sont ces petites cartes qui s'affichent sur l'interface pour vous proposer différentes activités en accès immédiat dans les jeux auxquels vous jouez. Et la réflexion derrière, c'était les joueurs aujourd'hui, parce qu'ils ont changé, ont souvent pas assez de temps pour jouer. Et donc, s'ils n'ont pas au moins 2 heures de jeu devant eux, 2 heures de libre, ils disent « je ne vais même pas lancer la console parce que ça va me prendre trop de temps de me lancer dedans ». Et ça, c'est hyper vrai. Il y a aussi le problème de l'aide dans les jeux avec les tips qu'on peut avoir en vidéo dans l'interface de la PlayStation qui sont importants. Mais plus important que ça, c'est l'idée de pouvoir se lancer dans un jeu, dans une activité en 2 secondes. Moi, hier, je me suis dit, je vais lancer la PS5 pour voir ce que je peux faire. Et du moment où j'ai allumé la PS5, j'étais pas sur Astro's Playroom, mais j'ai allumé la PS5, je suis allé sur le jeu Astro's Playroom, et il y avait les activités, différentes activités qui étaient proposées. J'ai appuyé sur le bouton, et en quoi, 8 secondes, j'étais en jeu. Et c'était plus rapide que le fait de lancer le jeu et puis de lancer l'activité depuis l'intérieur du jeu. Je ne sais pas pourquoi c'est plus rapide comme ça, mais c'est même pas une question. Genre, les trailers, mais les écrans de présentation, tout ça, ça prend un peu plus de temps quand on lance le jeu tout seul plutôt que de le lancer par l'activité. Parce que les activités sont disponibles aussi, même quand le jeu n'est pas lancé. Enfin, certaines d'entre elles. Bref. J'ai trouvé ça complètement cohérent et c'est vraiment, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un des avantages de la PlayStation, et peut-être même autant ou plus que la manette. Je pense que Microsoft a vu ça et est en train de travailler déjà à des fonctionnalités comparables.
Bah, tu sais que moi, j'étais pas très convaincu par ça à la base, et je suis assez d'accord. Ce confort de pouvoir se lancer en quelques secondes, pour le coup, t'as ça nulle part ailleurs. Hein, t'as pas ça sur PC, t'as pas ça. Enfin, vraiment, t'as ça nulle part ailleurs. C'est vraiment très cool, et vraiment, je suis premier surpris, quoi. Et ça plus les vidéos d'aide en jeu, c'est pareil. Je me disais, bon, c'est vraiment gadget. Et bah, notamment dans Demon's Souls, et bah, c'est vachement pratique parce que en fait, Demon's Souls est bourré. Sur PS5 est bourré de petites vidéos, de petits guides, de petites astuces qui t'aident vachement. Et vraiment, c'est
et tu les utilises, toi?
Ouais, j'ai dit, bah oui, carrément. Bah, dans Demon's Souls, c'est vraiment hyper, hyper intéressant de les utiliser, quoi.
Mmh. Ouais, bah écoute, on va voir sur le long terme ce que ça va donner, mais je suis d'accord. Enfin bon, vous l'avez bien compris. Moi, je pense que ça fonctionnera. Bon, allez, on va conclure avec quelques news rapides. Dead Cells a vendu 3,5 millions d'unités, mais encore plus important que ça, ils vont sortir un deuxième DLC payant en début d'année prochaine. Ça sera potentiellement le dernier, mais c'est marrant parce que Motion Twin, ils avaient annoncé au début, non, nous on fait les jeux et puis ils sont finis, et puis après on fait pas de trucs en plus. Alors, Dieu sait qu'ils ont fourni énormément de contenu gratuit, hein, donc c'est pas genre ils essayent de tirer sur la corde, mais c'est marrant de voir que quand tu vends 3 millions de jeux, au bout d'un moment tu dis, bah, si on fait un autre DLC à 5€, ça fera peut-être rentrer un petit peu d'argent. Allez, on va le faire. C'est marrant de voir ça. Dauntless Reforged. Vous vous souvenez de Dauntless ou pas du tout? C'est un jeu, un free-to-play qui veut rendre le Monster Hunter accessible en quelque sorte.
Alors, absolument pas.
Non,
pas du tout.
D'accord. Il est sorti il y a il est sorti il y a 2 ans, je crois. Et là, il y a une refonte du truc que j'aimerais peut-être essayer si encore j'avais du temps. Parce qu'il y a une vraie refonte du jeu. Et moi qui aime le concept de Monster Hunter sans avoir réussi à accrocher au jeu lui-même. D'ailleurs, peut-être que c'est Monster Hunter World qui leur a coupé l'herbe sous le pied parce qu'il a amené le concept à énormément de joueurs. Et donc, on n'avait plus forcément besoin de Dauntless. Mais bon. La version refaite est disponible depuis aujourd'hui, donc vous pouvez aller le tester. Bend Studios, les développeurs de Days Gone, voient 2 de leurs vétérans quitter le studio, donc je ne sais pas si c'est mauvais signe pour la suite de Days Gone, qui avait connu un succès, on va dire, mitigé. Mais moi, j'aurais été curieux de voir ce qu'ils donnaient après ce premier essai. Nvidia a dévoilé la nouvelle RTX série 3000, c'est la RTX 3060 Ti qui coûte 419€. En gros, c'est les performances d'une 2080 Super, donc c'est encore des performances impressionnantes. Ouais. Oui, JK, toi, tu as un avis sur le matos, comme d'hab?
Bah, je l'ai testé, donc... rapidement, c'est effectivement une très bonne carte pour le prix. Elle est effectivement aussi puissante qu'une 2080 Super. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que comme toutes les cartes graphiques qui sont sorties depuis septembre, elle est introuvable. Non, mais c'est vrai, elle est sérieusement, hier, il y a eu la mise en vente hier à 15h, donc c'était prévu. Ça a duré 5 minutes, littéralement 5 minutes. Mmh. Tout est parti. Et là, il n'y a plus rien. Et en plus, quand on arrive à trouver des modèles, ils sont 50, 60, 100€ plus chers. Mmh. Donc, c'est un peu la
coup, forcément.
C'est un peu la douche froide. Ouais, c'est un peu la douche froide à ce niveau-là, quoi. Mais par contre, si vous arrivez à la trouver à ce prix-là, au prix de 419€, c'est un super rapport qualité-prix. Hein, y a pas de problème.
Moi, je suis en train de passer ma commande pour mon nouveau PC. J'en ai parlé dans l'émission déjà. Et je vais donc commander une bête de course monstrueuse. Comme vous le savez, j'ai pas changé une pièce de mon PC depuis 2015, je crois, 2014 même. Donc ça fait un bon moment. Et donc là, c'est une bête de course. Et donc je vais prendre un Ryzen 5900 et une RTX 3070. Je fais pas la 80 parce que je veux que ça soit aussi silencieux que possible. C'est ma priorité, mais du coup la commande est prête, mais je sais pas quand je vais pouvoir avoir le truc. Il me disait à la boutique où je le commande, il me disait, vous savez,
il faut qu'il y ait une pénurie,
quoi. Ouais, c'est un peu difficile. Mode photo dans Cyberpunk 2077 qui a été révélé, et ça explique enfin pourquoi on peut tellement détailler notre personnage. C'est pas que pour les cutscenes, c'est aussi pour le mode photo. Et vous allez dire que je dis ça en plaisantant, mais je suis même pas sûr. Un beau mode photo avec un personnage qu'on a envie de partager, je pense que ça, au niveau marketing pour CD Projekt, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que ça veut dire que plein de gens vont partager des photos du jeu et avec leur personnage vachement personnalisé. Je pense que ça a pu jouer dans la décision de faire la personnalisation du personnage. Je ne sais pas si je me trompe, mais...
Bon, c'est un outil marketing. C'est aussi un outil marketing, le mode photo. Hein. Donc, ils en ont conscience. Les éditeurs et développeurs en ont conscience, clairement. Parce que quand tout le monde partage ses meilleures photos sur Instagram ou Twitter, etc., bah, c'est une très bonne façon de vendre le jeu, quoi.
On est d'accord. Et enfin, dernière news de la journée, la chose la plus importante... c'est le fait que Fortnite commence sa saison 2 du... Non, le chapitre 5. Non, la saison 5 du chapitre 2, on va y arriver, avec Baby Yoda et le Mandalorian, évidemment, et Kratos. Donc, le crossover incroyable continue. Il y a plein de personnages différents. Ils vont même plus loin. On parlait de marketing. Dans le marketing qu'on ne pouvait l'imaginer, des nouvelles skins Mandalorian et Kratos, c'est quand même le crossover le plus incroyable qu'on puisse imaginer, quoi.
Ça me rappelle c'est comme Smash Bros ou Mortal Kombat, t'as toujours des machins improbables, ouais, qui arrivent. Bientôt on aura John Rambo peut-être dans Fortnite, et ou à l'inverse on aura Wario, tu vois, je sais pas,
possible.
Ils vont s'arrêter,
possible, ouais. Dernier mot, Game Cult a 20 ans, donc si vous appréciez Game Cult, allez leur souhaiter un bon anniversaire.
Les amis, bon anniversaire, Game Cult.
Bon anniversaire.
Ouais. Bon anniversaire. Donc, on fait des bisous à tous ceux qui ont fait la vie de ce site de référence pendant ces 20 dernières années, dont on a reçu certains dans cette émission d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour cet épisode bien fourni du Rendez-vous Jeu. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs en veulent plus? Je vais commencer avec JK. Où es-tu sur le net?
Oui, je suis comme d'habitude sur jeuxvideo.com pour de la tech, un peu de jeux vidéo aussi, dans le journal du hardware le vendredi à 16h30 sur le stream, et dans ZQSD bien entendu. On a lancé un petit format, vu que c'est compliqué pour se réunir, etc., en ce moment, on a lancé un truc qu'on a appelé astucieusement ZQS2, puisque l'idée c'est de faire un podcast à deux, en mode un peu conversation.
J'ai vu ça, je t'avoue que rien que sur le jeu de mots, j'ai la fierté qui a envahi mon cœur, j'étais très fier de toi, enfin de vous.
C'est bien. Et du coup, l'idée, c'est de faire un petit format à deux, très conversation, chacun vient avec un sujet qui lui parle, un truc qui peut être très subjectif. Et voilà, dans le premier numéro, par exemple, Corentin a parlé de son amour pour Worms dans les années 90. Et donc, voilà, c'était très cool. Donc, c'est des formats beaucoup plus courts, hein, ça dure une petite heure. Donc, c'est très sympa et on va essayer d'en faire un. Ben, ça va.
Attends. Non, mais si, mais j'adore que pour ZQSD, le format court, c'est une heure. C'est, ça encapsule exactement l'essence du podcast.
Pour nous, c'est complètement un format court. Ouais. Donc, et normalement, on a un prochain numéro qui arrive, je pense, ce week-end ou demain. Allez,
super. Optimiste. Très bien. Donc, ça, c'est toujours sur le flux de ZQSD, hein, bien sûr, mais ça s'appelle ZQSD.
C'est sur le flux d'appli 2, voilà, tout simplement.
Très bien. Ophiel, où te retrouve-t-on sur l'internet?
sur l'internet alarmant, on me retrouve essentiellement sur Twitter via DressMeGeekly, qui est également mon blog où je parle de jeux vidéo, geekerie, enfin tout ce qui touche à l'univers geek, pardon. Sur Insta, Ophiel, et sur Twitch aussi, Ophiel, où j'ai commencé à lancer un peu mes streams où je joue à tout et n'importe quoi avec zéro skill. Donc, n'hésitez pas à me suivre.
Avec zéro skill, donc tu as quand même à peu près 20 points de skill de plus que moi, ce qui est pas mal. Je suis assez impressionné. Super, merci beaucoup au ciel, merci d'avoir participé à l'émission, merci également à JK bien sûr. Et si vous voulez me suivre moi, c'est sur NotPatrick, NotPatrick partout, hein, Twitter, Facebook, Instagram, absolument partout, y compris sur YouTube, où vous pouvez retrouver une formidable vidéo où j'explique la puissance informatique avec des Duplos, j'irais même jusqu'à dire avec les Duplos de mon fils, et je vous explique pourquoi la PlayStation 5 et la Xbox Series X ne pourront pas tenir les 60 FPS. Pourquoi c'est impossible qu'elles tiennent les 60 FPS sur le long terme avec des Duplos. Donc, évidemment, le sujet est intéressant, hein, les 60 FPS sur les consoles next-gen, enfin current-gen, et puis avec les Duplos, vous êtes intrigués, hein, youtube.com/notepatrick. et vous pouvez également soutenir l'émission, bien sûr, sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Si vous ne le faites pas tout de suite, même si vous pourriez, c'est quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol et ça fait cling, et là vous dites « Oh, cling, Patrick, patreon.com/rdvjeux », ou alors... Si vous êtes déjà patriote, vous savez ce que ça fait ? Ça fait cling ! Fierté. Cling, fierté, c'est l'équivalent pour ceux qui sont déjà patriotes et qui sont fiers et heureux de soutenir l'émission, que je remercie et auquel j'envoie énormément de bisous tout le temps et maintenant en particulier. Si vous soutenez l'émission, ce bisou-là, il est pour vous. Voilà, il est pour vous. J'espère que vous l'avez senti sur votre petite joue.
C'est trop mignon.
Et je vous fais donc des bises, là, pour le coup, à tout le monde, mais c'est des bises normales. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode où on parlera, je pense, du coup, de Cyberpunk. Cyberpunk 2077, le jeu que tout le monde attend. Enfin, la semaine prochaine, si tout va bien. Bises à tous. Ciao, ciao.